1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 7, nous lisons: Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance. Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous, frères et sœurs, ou oui, encore une fois, oui, un rebonjour, un bon sabbat à vous tous, selon où vous vous trouvez. Pour certains, c'est la fin, pour d'autres, le début, mais qu'importe. Il s'agit néanmoins des heures du sabbat, du jour du Seigneur. Et en ces heures, nous aimerions, et j'aimerais que nous puissions passer du temps pour poursuivre cette méditation que nous avions eue, pas, j'allais dire sabbat dernier, il y a deux sabbats, sur la place du don prophétique dans l'Église évangélique. Donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois. J'ai pris un peu de temps pour récupérer et vous pouvoir vous fournir quelque chose d'élaboré. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, à savoir étudier ce message et cette méditation sur le don prophétique dans les derniers jours. Donc la dernière fois, nous nous sommes concentrés sur la place du don prophétique dans l'Église évangélique en général, et maintenant nous voulons nous concentrer sur ce don, mais manifesté tout particulièrement dans les derniers jours. Et donc, si vous vous rappelez de comment nous avions conclu notre message précédent, eh bien, comme nous l'avions vu, c'est l'arrivée de l'apostasie dans l'Église durant le Moyen Âge, qui a créé un grand vide historique dans la manifestation du don prophétique parmi les disciples de Christ. C'est ce que nous avions vu à la fin de notre message, suite à la méditation sur les dons de l'Esprit dans Éphésiens chapitre 4. Nous avions brièvement, j'avais brièvement fait allusion à cette grande apostasie qui explique, à la lumière de ce que nous avions contemplé par rapport à Proverbe chapitre 29, ce que nous allons revoir, ce qui explique pourquoi les dons de l'Esprit ne furent moins manifestés pendant une grande partie de l'histoire de la dispensation chrétienne, c'est-à-dire de notre ère après Jésus-Christ. Et pour élaborer cela davantage, parce que la dernière fois, je n'avais fait que lire ces citations du frère Loughborough, qui permettait toutefois d'avoir une vision historique de ce que les protestants disaient à ce sujet. Maintenant, j'aimerais que nous nous tournions vers la parole de Dieu dans Actes chapitre 20. Dans Actes chapitre 20, nous allons pouvoir voir le tracé à la fois biblique et prophétique et, bien entendu, historique, qui nous permet d'asseoir dans notre esprit et notre compréhension que, en effet, l'apostasie dans l'Église a engendré l'amenuisement ou la disparition parfois des dons, et en particulier du don prophétique. Dans Actes chapitre 20, verset 26, nous lisons: C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans en rien cacher. Donc c'était l'apôtre Paul ici qui parlait aux frères avec qui il était, peut-être à Éphèse, il me semble, à vérifier. Et donc il parlait à ses frères, il leur disait, non, excusez-moi, c'est en Macédoine, je crois. Bref. Où qu'il soit, il leur disait à ces frères-là à qui il s'adressait, à qui il avait prêché l'évangile et qu'il avait préparé, à qui il avait porté le message de Dieu, il leur disait « Je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang, car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des lions, des loups ravissants, qui n'épargneront point le troupeau. Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. Donc, l'apôtre Paul ici, il avertissait les frères, je crois qu'il s'adressait aux anciens de l'Église, si on le lit au verset 16. Et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves, nous sommes au verset 17 à 19, etc., que je n'ai rien caché des choses qui vous étaient utiles. » Donc il s'adresse aux anciens. Il leur dit « Voilà, je vous ai prêché, je ne vous ai rien caché, je suis net du sang de vous tous, mais je vous annonce qu'il s'introduira, après mon départ, des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau. » C'est-à-dire, le troupeau, les croyants, les disciples de Jésus. « Et qui s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses. » L'apôtre Paul a annoncé la venue d'un détournement général. Et nous lisons au sujet de ce détournement de la foi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12, où nous avons le tableau tout en entier qui nous y est présenté dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à commencer par le verset 1er. Encore une fois, l'apôtre Paul s'exprime sous l'esprit d'inspiration et dit: pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté dans son temps. Car, verset 7, le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que, plus tard, le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, hein, toujours ce même adversaire, ce fils de perdition, l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance et avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Voilà quelle était la prédiction qui était directement liée à l'apparition de cet impie, à savoir de l'homme du péché, du fils de la perdition, qui, nous lisons, s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Hein? Et donc, bien entendu, ce mystère de l'iniquité qui opérait déjà, mais qui fut plus pleinement manifesté à partir du 5e et tout particulièrement du 6e siècle, ce n'était autre que l'Église papale, la papauté, l'Église de Rome, dont la suprématie jeta les ténèbres sur la terre, comme on l'avait vu la dernière fois. Et donc le mystère de l'iniquité serait pleinement manifesté à travers la papauté, hein? Celui qui s'assoit comme Dieu dans le temple de Dieu, celui qui se proclame vicaire du Christ, celui qui se proclame Dieu Tout-Puissant sur la terre. Ce sont des titres qui sont attribués au pape. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais maintenant, lorsque nous réfléchissons à cela, hein, tout cela serait la conséquence totale de ces loups ravissants dont l'apôtre Paul parlait. Et que ferait la papauté pour éteindre le don prophétique? Eh bien, nous le voyons en nous tournant vers les paroles de Daniel chapitre 7. Nous sommes ici en train d'élargir ce qui avait été mentionné à la fin de notre message précédent au sujet de l'apostasie. Dans Daniel chapitre 7, nous voulons élargir cette pensée. Hein? Que ferait la papauté pour éteindre, ou du moins quasiment totalement, anéantir la présence du don prophétique parmi les croyants. Dans Daniel chapitre 7, verset 19, nous lisons, hein, Daniel, il s'adresse à celui qui s'adressait à lui, et il dit, enfin, il exprime, alors je voulus savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres, et extraordinairement terrible, dont les dents étaient de fer et les ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombées, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses, qui avait une plus grande apparence que les autres. Et ensuite, verset 23. Donc l'ange qui s'adressait à Daniel, il me parla ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les seins du souverain, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et donc, tout adventiste qui se respecte et qui connaît quelque peu l'histoire et l'accomplissement de cette prophétie dans l'histoire, au sujet tout particulièrement de la quatrième bête, saura reconnaître la montée en puissance de l'Église catholique romaine qui devenait maintenant la femme qui était assise sur cette bête et qui dominait les nations et qui domina les nations pendant plusieurs siècles. Et pendant combien de temps dominerait-elle les nations et pendant combien de temps les saints seraient-ils livrés en sa main? Nous lisons pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous y reviendrons. Et qu'est-ce qui caractériserait cette puissance et qui permet à répondre à la question que je vous ai posée, à savoir que ferait la papauté pour éteindre le don prophétique sur la terre, ou du moins quasiment l'effacer, en effacer la présence. Ceci, nous lisons au sujet de cet autre roi qui s'élèverait en abaissant trois rois. Nous lisons, il prononcera des paroles contre le souverain, c'est-à-dire le Très-Haut, comme c'est marqué en anglais, the Most High. Il opprimera les saints du souverain, nous savons, il les persécutera, il les a persécutés pendant de nombreux siècles. Et il pensera, ce roi ou elle, la papauté, il pensera à changer les temps et la loi. Les temps et la loi. Et quelle loi? Eh bien, il n'y en a pas 36 000. Ce n'est autre que cette loi au sujet de laquelle, d'ailleurs, nous lisions dans Proverbe chapitre 29, verset 18. Nous allons y venir. Mais avant d'y venir, j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi. En quoi cette caractéristique de l'Église catholique romaine aurait une influence directe sur la présence ou l'absence des visions dans l'Église. Réfléchissez. En quoi cette caractéristique de l'Église catholique romaine aurait une influence sur la présence ou l'absence des visions dans l'Église, dans le corps des croyants en Jésus-Christ, de ses disciples, sur la terre? Eh bien, pour répondre à cette interrogation, nous nous tournons donc vers ce passage de Proverbes chapitre 29, verset 18. C'est une conclusion à laquelle nous étions parvenus la dernière fois, si vous aviez été attentif, mais nous y revenons tout de même, parce que peut-être qu'elle était un peu succincte. Dans Proverbes chapitre 29, verset 18, nous lisons, hein, rappelez-vous, nous avions contemplé cela, je crois que c'était pas la précédente, mais la méditation avant, elle encore, sur notre besoin d'un prophète. Et là, donc, nous y revenons, hein, nous complétons le cercle ce principe important et comment ce principe s'applique sur ce sujet que nous méditons. À savoir, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein, le peuple périt, le peuple est détruit, toutes ces choses que nous avions vues. Mais heureux est celui qui garde la loi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que nous avons lu une citation qui mettait en lumière le fait que, et qui établissait le lien entre l'absence de vision et l'absence d'observation de la loi. Parce que des fois, on peut lire la parole de Dieu et on lit et on dit d'accord, j'accepte. Mais en fait, on n'a pas compris. Et en effet, moi-même, je confesse que je n'avais pas établi le lien entre la première partie de ce verset 18 et la deuxième. Alors que, à travers les écrits des pionniers, ça, la lueur a lui dans mon intelligence, et maintenant je vous la partage, à savoir que celui qui garde la loi, il est heureux parce qu'il reçoit des visions et donc il est conduit. Mais ceux qui rejettent la loi sont sans vision et deviennent donc sans frein et ne peuvent pas être heureux. voyez, c'est très étroitement lié, mais nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes pour parvenir à cette conclusion, parce que si nous contemplons davantage la parole de Dieu, nous allons voir, encore une fois, si nous ne l'avions pas déjà cerné la dernière, que ce principe, nous le retrouvons autre part, à savoir, venez avec moi vers le fameux passage d'Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Et donc, qu'est-ce qui est directement lié à ce principe qui nous dit que s'il n'y a pas de vision, c'est parce que le peuple ne garde pas la loi. Mais celui qui garde la loi est heureux. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, nous lisons, hein, vous le connaissez ce fameux passage, mais là, Dieu voulant, je pense que si vous réfléchissez avec moi, si vous suivez ce tracé ici biblique que nous essayons de poursuivre, vous allez voir que ce passage prend davantage de sens. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, nous lisons, à la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Autrement dit, si le peuple n'a pas dans ses convictions de foi cet attachement à la fois à la loi de Dieu, les 10 commandements, la loi morale et le témoignage des prophètes, eh bien, Dieu ne peut pas faire poindre sur eux son aurore. Dieu ne peut pas les illuminer alors qu'ils rejettent déjà tous les moyens par lesquels il est censé s'exprimer à eux, se révéler à nous. Vous voyez? Et donc, à la loi et au témoignage, voilà donc l'origine de cette déclaration et voilà, en voilà le sens. Autrement dit, si les hommes refusent d'obéir à la loi morale de Dieu, eh bien, proportionnellement à leur refus sera l'absence de vision des prophètes parmi eux. Voyez? Et donc, quelle serait la conséquence logique et biblique de cette caractéristique de ce roi et cette puissance et ce mystère de l'iniquité qui opérerait de manière imposée par la loi, hein, les lois civiles, quel serait l'impact de cette caractéristique, à savoir que la papauté penserait à, nous avons lu, changer les temps et la loi. Qu'est-ce que la papauté a fait vis-à-vis de la loi de Dieu? N'a-t-elle pas chercher à abroger le 4e commandement et à transférer la solennité du 7e jour vers le premier. Précisément, nous le savons, c'est les évêques, plusieurs d'entre eux se vantent d'ailleurs de ce qu'ils considèrent être d'ailleurs la marque de leur autorité, j'emploie leur langage. Et donc, quelle aurait pour conséquence cette activité, cet acte mis en vigueur par l'Église catholique romaine à travers l'Europe et le monde élargi sous son influence, eh bien, ni plus ni moins que l'effacement ou la disparition, je devrais dire, du don prophétique. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, que si le peuple ne parle pas selon la loi et le témoignage, il n'y aura point d'aurore pour eux. Ou comme nous avions lu dans Proverbe chapitre 29, verset 18, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux celui qui garde la loi. Et donc, s'il ne garde pas la loi, peut-il être heureux? Non. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Son absence de bonheur vient d'où? Du fait qu'il est abandonné à lui-même parce qu'il ne reçoit pas les visions. Vous voyez donc comment nous arrivons à expliquer à travers simplement la parole de Dieu le principe de pourquoi il y a eu cette disparition graduelle mais prononcée du don prophétique au sein de l'Église à travers les siècles de cette suprématie de l'Église papale. Nous le voyons clairement ici. C'est réellement indiscutable et vous remarquerez, frères et sœurs, que pour parvenir à cette conclusion solide, je n'ai eu recours à aucune autre source que la parole de Dieu. Vous voyez ? J'aimerais que nous puissions poursuivre ici. Parce que notre but dans cette méditation, c'est de contempler le don prophétique dans les derniers jours. Toutefois, afin de pouvoir voir et comprendre la présence du don prophétique dans les derniers jours, nous avions besoin de passer par cette étape durant laquelle le don prophétique semble avoir été ôté, et certains diraient même par Dieu. Certains, parmi des baptistes, aujourd'hui, certains évangéliques peut-être, affirment que le don prophétique a été aboli, pour ainsi dire, durant la dispensation chrétienne. Mais nous avons vu là, à travers notre étude précédente que une telle affirmation est totalement infondée et que précisément la Bible nous enseigne exactement le contraire. Et ce vide dans le Moyen-Âge, nous pouvons donc maintenant à travers la parole de Dieu encore une fois l'expliquer. Et pas de manière juste évasive, mais de manière vraiment profondément biblique et inspiré. Et donc, mais après ce vide, il y aurait une réapparition. Et je vous montrais que cette réapparition du don prophétique, ce n'est pas juste nous qui voulons, parce que ça nous arrange de dire cela. Non. Si vous regardez avec moi dans la parole de Dieu, que c'est bel et bien ce qui nous a été enseigné. Si seulement nous voulons tendre l'oreille pour accepter ce que Dieu dit et déclare à ce sujet. J'aimerais vous poser cette question ici pour stimuler notre réflexion. Est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que la réapparition de la lumière au sein des ténèbres du Moyen-Âge et au sein des superstitions du catholicisme entraîne également la réapparition du don prophétique parmi les croyants. Vous voyez donc, pendant de nombreux siècles, le peuple de Dieu, à travers le Moyen-Âge, a été dans l'obscurité spirituelle, dans des ténèbres spirituelles, à cause de l'influence absolument intense des superstitions catholiques sur les pensées et même les consciences des croyances sincères. Mais nous savons à travers l'histoire que la lumière a rejailli à travers, dans même l'histoire, au fin fond même de ce Moyen-Âge, et avant sa fin, nous voyons quelque chose. Et j'aimerais que nous puissions le lire à travers les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et verset 21 à 22. Comment est-ce que Jésus nous a exprimé cela et nous a donné une vision du passé qui nous aide à faire sens de notre présent? Dans Matthieu chapitre 24, verset 21 à 22, nous lisons. Donc Jésus, il faisait un espèce de panorama prophétique dans lequel les choses étaient un peu entremêlées parce que, comme il disait parfois, il avait dit par le passé à ses disciples, il y avait des choses que j'ai envie de vous dire, mais vous ne les comprendrez pas. Et donc, dans l'explication de Jésus, dans lesquelles il cherchait à répondre à leurs questions lorsqu'ils lui ont posé la question au verset 3, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Eh bien, Jésus, en répondant à leur question, a parlé de plusieurs choses qui n'auraient pas toutes lieu juste avant son retour, mais qui étaient, c'était une projection dans l'avenir par laquelle les disciples de Jésus pourraient être aidés et assistés. à travers ces déclarations prophétiques de Jésus. Et donc parmi toutes ces choses que Jésus a prévues, a prédit, a prophétisé, nous lisons celle qui nous est déclarée au verset 31. Car alors il y aura une grande affliction, ou comme c'est marqué en anglais, une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aurait jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Qu'est-ce qui sera abrégé? Ces jours-là. Les jours, quels jours? Ces jours de cette grande affliction ou grande tribulation. Et quelle pourrait être cette grande tribulation qui, si elle n'avait pas été abrégée, aucune chair, mais on parle des élus ici, n'aurait échappé, à savoir n'aurait survécu, eh bien nul autre que celle que nous avions lue dans Daniel chapitre 7 au sujet de la suprématie de cette puissance toute particulière et particulièrement différente des autres. Dans Daniel chapitre 7 verset 28, nous lisons qu'elle opprimerait les saints du souverain ou du très haut de Dieu. Et donc elle penserait à changer les temps et la loi, et les saints seraient livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et à combien de temps correspond cette période prophétique? Eh bien, c'est celle que vous retrouvez. Je vais m'avancer dans notre étude, mais pour pouvoir cerner le sens de cette déclaration, même si nous le connaissons, c'est important parce que nous pouvons avoir des vides parfois. Cette déclaration, nous la retrouvons ici dans Daniel chapitre 12 et verset 6, où nous lisons au sujet de la femme qui s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et ces 1260 jours sont l'équivalent, où on nous donne un équivalent de ces 1260 jours au verset 14, où il est écrit que elle s'envola au désert, la femme en son lieu, où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps loin de la présence du serpent. Vous voyez l'équivalence ici? Alors donc là, quand la parole de Dieu nous donne des équivalents, nous pouvons ensuite substituer un terme par celui qui nous a été donné comme un synonyme. Et donc dans Daniel chapitre 7, verset 25, nous apprenons que les saints seraient livrés en la main de la papauté pendant 1260 jours prophétiques, à savoir 1260 années littérales à compter, il me semble, de 538 après Jésus-Christ. C'est à vérifier. Laquelle période aboutirait en 1798. Je crois que c'est 538. 538 après Jésus-Christ, c'est le début de la suprématie papale. Et pendant cette période, nous lisons que les saints, c'est-à-dire les croyants, les disciples de Jésus, seraient livrés en la main de la papauté, ceux qui voudraient rester fidèles à leur conscience et ne pas devenir les sujets des superstitions catholiques, s'assujettir et céder à ces superstitions, eux seraient livrés en la main de la papauté pendant cette période. Et donc, c'est de cette affliction-là qu'il s'agissait dans les paroles de Jésus. Nous y revenons dans Matthieu chapitre 24. Je le reprends ici. Matthieu chapitre 24, Jésus disait: il y aura donc une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Pourquoi? Afin qu'ils puissent rester des élus sur la terre. Afin qu'ils ne soient pas tous exterminés par cette dévastation des persécutions perpétrées par la papauté. Vous voyez? Et donc, ce temps d'affliction ou cette tribulation fut abrégé pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et comment nous retrouvons cet abrégement de la tribulation exprimé autre part dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Et donc c'est pour ça que je disais, je me suis un peu avancé, mais j'avais besoin. Dans Apocalypse chapitre 12, donc nous revenons, c'était l'objectif, c'était ce que je voulais lire. Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 16. Donc, le verset 13, il s'agit du moment où Satan a été précipité sur la terre du fait que les anges ont perdu tout attrait, ou non, ils ont perdu tout intérêt pour le diable. C'est-à-dire que les affections qu'ils avaient pour le diable, elles se sont totalement, elles ont été totalement, elles ont totalement touché à leur fin lorsqu'ils ont vu Jésus se faire crucifier par Satan. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il a été précipité sur la terre au verset 13. Et donc, nous lisons, « Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » Le langage est très symbolique. Hein. La femme, donc, c'est un symbole de l'Église. J'ai pris la fille de Sion comme... excusez-moi, je ne me souviens plus exactement du langage. Mais bref, dans la parole de Dieu, nous voyons une femme comme... symbole d'une église, c'est d'ailleurs ce que nous voyons dans le verset 1, où il parut, verset 1, un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Et donc, l'église est d'une certaine manière représentée en symbole comme étant prête à accoucher de l'enfant Jésus qui avait été prophétisé, le Messie tant attendu. Et ensuite, donc, elle a sous ses pieds la lune, c'est-à-dire les symboles et les cérémonies des services mosaïques qui annonçaient Jésus. Et elle a sur sa tête cette couronne de 12 étoiles avec les 12 apôtres qui furent envoyés par Jésus pour former la nouvelle Église de Christ sur la terre, sous cette nouvelle dispensation. C'est-à-dire que plus sous les ombres, mais maintenant à la pleine lumière de l'Évangile, pleine lumière de la croix. Et donc, ça nous permet de comprendre le verset 13, et le diable, le dragon, poursuivit cette femme qui avait, pour ainsi dire, enfanté le fils. Donc, il ne poursuit pas Marie, il poursuit la femme, l'Église, qui est allé de l'avant pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, mais contre les puissances du mal sur la terre. Et donc, il poursuit cette femme, hein, en la personne de tous les fidèles et disciples de Jésus. Mais, verset 14, donc, vous voyez, c'est une prophétie qui s'élargit. Donc, vous faites des grandes enjambées de plusieurs centaines d'années d'un pas à un autre. Verset 14, « Mais deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu où elle fut nourrie. » Combien de temps ? Un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Et donc ici, cette femme qui est mentionnée ici, c'est la femme pure. Hein, il y avait à travers tous ces siècles beaucoup de disciples de Jésus qui étaient enténébrés, hein, enveloppés de superstition et qui voulaient adorer Dieu mais qui l'adoraient d'une manière imparfaite. Mais cette femme ici dont la prophétie parle, c'est celle qui a été préservée de toutes ces influences. Et nous en voyons l'accomplissement de ces paroles dans tout particulièrement l'histoire des Vaudois dans les vallées du Piémont. Hein, au-dessus de l'Italie, en haut à gauche, ces fameuses vallées dans lesquelles les croyants fidèles à l'ancienne religion, la vraie religion de l'Église primitive, allèrent se réfugier à l'abri des persécutions, à la fois des insinuations, mais ensuite des attaques et des persécutions de l'Église catholique romaine, qui comme nous le voyons de l'histoire, a exercé progressivement une autorité de plus en plus dominatrice et cruelle, hein, comme c'était marqué dans Daniel chapitre 7. Hein. Les saints seraient livrés en sa main. C'est-à-dire Dieu permettrait que les saints souffrent dans les mains de la papauté. Et donc, voilà, verset 14, nous avons lu. Verset 15, et le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et donc là, nous avons encore une fois un langage très symbolique, mais que nous pouvons comprendre si nous prenons le temps. Et j'aimerais ici avoir recours à cette déclaration du frère Uriah Smith, qui exprime mieux que quiconque le sens de ces paroles du verset 16, lesquelles sont d'ailleurs directement liées au verset 15, parce qu'au verset 15, nous lisons que le serpent, donc, et donc c'est le serpent, mais par le moyen de cette entité qu'il contrôlait, hein, nous lisons que Jésus, je crois, dans Apocalypse chapitre 3, dit le lieu où Satan a son trône. Et le lieu où Satan avait son trône, ce n'était autre que là où il y avait une organisation qui agissait selon ses principes. Hein, les principes persécuteurs de Satan, ce sont eux qui furent incarnés par la papauté. La papauté est l'incarnation du mystère qui anime la pensée de Satan, le mystère de l'iniquité, le mystère de la désobéissance, le mystère du péché, toutes ces choses furent incarnées dans la papauté, de sorte qu'elle est son instrument par excellence. Et donc c'est dans ce sens que nous pouvons voir que le serpent, à travers son instrument suprême, l'Église catholique romaine, il lança de l'eau, vous voyez ce langage symbolique. C'est-à-dire qu'il attaqua, chercha à engloutir, tuer, persécuter, détruire, diaboliser, traiter d'hérétique la femme, c'est-à-dire les fidèles disciples de Jésus, afin qu'ils puissent être entraînés par le fleuve. Mais, verset 16, nous lisons, mais la terre secourut la femme. Et qu'est-ce que cela veut dire que la terre a secouru la femme et qu'elle a ouvert son sein pour engloutir le fleuve? Nous le lisons ici. Dans le livre de Uriah Smith, Daniel and the Revelation, à la page 555 et paragraphe 3, je vous le fournirai dans les notes, il cite: La terre secourut la femme en ouvrant sa bouche pour engloutir le fleuve. Il dit: La réforme du XVIe siècle débuta son œuvre. Dieu suscita le noble Luther et ses collaborateurs pour dévoiler le véritable caractère de la papauté et pour briser le pouvoir avec lequel la superstition avait asservi l'esprit des foules. Luther cloua ses thèses à la porte de l'église de Wittenberg et la plume avec laquelle il les avait écrites, conformément au rêve symbolique du bon électeur Frédéric de Saxe, traversa effectivement le continent et ébranla la triple couronne sur la tête du pape. Les princes commencèrent à embrasser la cause des réformateurs. C'était l'aube de la lumière et de la liberté religieuse. Et Dieu ne permettrait pas que les ténèbres en engloutissent l'éclat. Tetzel, le marchand d'indulgence, gonflait et mugissait de colère, et le pape Léon rougissait de rage, mais tout cela en vain. Le charme était rompu, les hommes découvrirent que les bulles et les anathèmes du pape tombaient impuissants à leurs pieds dès qu'ils osaient exercer le droit que Dieu leur avait donné, de régir leur conscience en s'appuyant sur sa seule parole. Les défenseurs de la véritable foi se multiplièrent et bientôt, il y eut suffisamment de terres protestantes en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en Norvège, en Suède, pour engloutir le fleuve de la fureur papale et le priver de son pouvoir de nuire à l'Église. C'est ainsi que la terre secourut la femme et qu'elle a continué à le faire jusqu'à aujourd'hui, à mesure que l'esprit de la réforme et de la liberté religieuse a été favorisé par les principales nations de la chrétienté. Voyez donc, qu'est-ce que cela veut dire que la terre secourut la femme? C'est les terres protestantes servirent aux fidèles d'asile, les protégeant, je cite, de la fureur papale. Vous voyez? Donc, ce verset 15 et 16, vous pouvez l'appliquer directement à cette période, nous y revenons, ce que nous avions contemplé avant, du temps d'affliction, de tribulation, dont les jours furent abrégés. Et est-ce que nous voyons ici, à travers les paroles d'Apocalypse chapitre 12, versets 15 à 16, comment ces temps de la grande tribulation furent affligés, comment ce temps de la grande tribulation fut affligé? Précisément à travers la réforme protestante. Nous venons de le lire, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que c'était? La réforme du XVIe siècle débuta son œuvre. Dieu suscita le noble Luther pour dévoiler le véritable caractère de la papauté et briser le pouvoir avec lequel la superstition avait asservi les foules et ensuite... Donc les princes, ils ont commencé à accepter cela. C'était quoi? Les hommes découvrirent que les bulles étaient impuissantes. Il y avait également... Les princes commencèrent à embrasser la cause des réformateurs. Vous voyez, toutes ces choses ont contribué à travers les princes embrassant la cause de la réforme protestante à créer une terre qui servirait d'asile et de secours pour la femme, l'Église. Vous voyez? Et tout ce que je suis en train de vous dire ici, ça a un but. Vous allez voir, suivez juste la ligne. Et donc, nous voyons que la terre qui secourut la femme, c'est équivalent à l'affliction abrégée pour les élus. Vous voyez? Et que se passerait-il juste en suivant de cette révolution religieuse en Europe? Vous tournez vers les paroles de Matthieu, chapitre 24, verset 23. Matthieu, chapitre 24, verset 23. Donc, c'est la suite. C'est directement la suite du précédent verset que nous avons lu. Où il est écrit. Alors, si... Donc, alors, après. Juste après que ces jours aient été abrégés. Donc, pas pendant, pas après que ce temps prophétique de tribulation a pris fin. Non, mais pendant ce temps, lorsque la fureur papale est abrégée pour les élus. Vous voyez? C'en est bien ici. Parce que la période prophétique, elle n'a pas été abrégée. La période prophétique reste la même. La période de la suprématie papale, c'est un temps, la moitié d'un temps, pardon, deux temps, excusez-moi, je me suis embrouillé les pinceaux ici, qu'est-ce que c'est? Apocalypse chapitre 12, un temps, des temps, c'est-à-dire deux temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1 plus 2 plus la moitié, c'est-à-dire 3,5 si je ne m'abuse. Ce qui est équivalent à 1260 jours, c'est-à-dire qu'un temps c'est 360 années, donc c'est 360 années. Et donc, deux temps, ça serait 360 fois 2. Et la moitié d'un temps, ça serait 360 divisé par 2. Et vous accumulez tout cela et ça vous amène à 1260 jours prophétiques, ce qui est symbolique de 1260 années littérales. Et donc, cette période-là, elle n'a pas été abrégée, mais la période, au sein de cette période durant laquelle les saints seraient livrés en la main de la papauté, elle a été abrégée. Pourquoi? pour les élus, parce que sinon, aucune chair n'aurait survécu. Aucune chair n'aurait, je cite, échappé. Et ensuite, à la suite de cela, à quoi nous pourrions nous attendre à la suite directe de cette révolution religieuse en Europe, verset 23. Parce que, comme je vous l'avais suggéré, si la lumière a réapparu à travers la réforme, qu'est-ce qui également reverrait le jour? Verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Intéressant quand même, Jésus il dit « je vous l'ai prédit ». Comme si il avait prédit quelque chose et ensuite plus tard il voit que les gens ils vont complètement zapper ce qu'il avait dit. Complètement occulté, complètement oublié, mais surtout ne pas saisir le sens de ses paroles. À savoir, l'avertissement de Jésus vis-à-vis des faux prophètes montre bien qu'il y en aurait des vrais. Et c'est ça. Sinon, il n'aurait pas dit des faux prophètes, il aurait dit car de faux Christ et des prophètes s'élèveront. Vous voyez ? Donc s'il ne devait pas y avoir de prophètes, Jésus aurait dit faites attention parce que je vous ai déjà dit, il n'y aura pas de prophétie. Donc il va y avoir des faux Christ et il va y avoir des prophètes qui vont s'élever. C'est ça qu'il aurait dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, faites attention aux faux Christ et aux faux prophètes qui feront de grands signes et des prodiges. Mais pourquoi fallait-il faire attention à cela? Parce qu'ils étaient en droit de s'attendre au véritable. Hein? Vous voyez? Et si vous contemplez ici le verset 29 à 30, contemplez avec moi, nous lisons, et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Réfléchissez ici avec moi. Ces versets-là, versets 29 et 30, montrent clairement que cette dernière période, durant laquelle les dons spirituels réapparaîtraient, aurait lieu juste avant le retour de Jésus. Je cite, juste avant le retour de Jésus, sur les nuées du ciel, je l'avais lu quelque part, excusez-moi. Oui, sur les nuées du ciel, c'est à la fin du verset 30. Et parce que vous voyez, les jours de cette affliction sont abrégés. Ensuite, en lien avec cela, Jésus appelle à faire attention aux faux prophètes, parce que justement la lumière réapparaîtrait dans les consciences, ils s'affranchiraient des superstitions de l'Église catholique et maintenant ils viendraient à la lumière de l'Évangile. Et vis-à-vis de cette nouvelle arrivée de lumière, Jésus dit attention, à ce moment-là, les faux prophètes, les faux Christ, ils vont arriver. Tac, le diable maintenant il va combattre cela. Hein? Il va essayer de d'étouffer cela, il va corrompre cela, il va essayer de pervertir cette percée de lumière venant de Dieu. Vous voyez? Et tout cela entre l'abrégement de l'affliction et verset 30, le retour de Jésus, hein, le signe du Fils de l'homme, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, vous voyez? Donc, nous avons clairement une période qui nous est donnée durant laquelle les dons spirituels réapparaîtraient. Il y aurait proportionnellement une réapparition de faux Christ et de faux prophètes dont il n'y avait pas tant de besoin pendant la suprématie spirituelle et civile de la papauté. Et nous voulons ici donc, en lien avec cela, constater les traces historiques du don prophétique lors de l'abrégement de l'affliction. Hein, parce que ici, j'ai lu la Bible, mais nous voulons voir des preuves historiques de ces choses-là. De cette réapparition du don prophétique. Je lis ici dans le livre du frère Loughborough, The Prophetic Gift in the Gospel Church, à la page 35 et paragraphe 1. La réforme du XVIe siècle et les temps qui lui ont succédé ont donné lieu à des manifestations merveilleuses de la puissance du Seigneur et du don de prophétie. Oui, la réforme du XVIe siècle et les temps qui lui ont succédé ont donné lieu à des manifestations merveilleuses de la puissance du Seigneur et du don de prophétie. D'Aubigné, l'historien, parle des prophéties de Jean Hus. Charles Buck, dans ses anecdotes religieuses, parle des prophéties de George Wishart en 1546. John Wesley, dans ses œuvres, parle des prophéties de Jonathan Pyra et de leur accomplissement. L'ancien J.B. Finley, dans son autobiographie, parle d'une vision et d'une guérison remarquable de sa propre personne au cours de l'été 1842. Le Christian Advocate, revue méthodiste, a publié un récit intéressant d'une vision remarquable et de ses résultats tels qu'ils ont été donnés au docteur Bond de cette église au cours de son ministère. Ensuite, il dit ceci, le frère. Pour ceux qui cherchaient humblement le Seigneur, ces visions étaient des signes qu'il, le Seigneur, n'avait pas changé et qu'il continuait à parler à son peuple par le don de prophétie. Vous voyez, on a juste mentionné quelques exemples, ici trois, mais si nous devions chercher davantage, sans doute que nous en trouverions d'autres encore. Mais ceci suffit à étayer ce que nous avons vu en principe par notre étude de la parole de Dieu. Et maintenant, nous avançons dans notre étude et il va falloir que j'arrive aussi vers la conclusion. Dieu aidant. Maintenant, nous voulons nous concentrer sur le don prophétique, tout particulièrement au temps de la fin, c'est-à-dire à l'issue des 1260 jours. Et en effet, de quoi nous parle le verset 29 de Matthieu chapitre 24? Nous lisions, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, d'une part, la lune ne donnera point sa lumière, les autres étoiles tomberont du ciel, et troisièmement, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le troisième n'a pas encore eu lieu, et encore heureux, car nous ne serions pas là, plus là du moins, mais les deux premiers signes, en comptant le soleil et la lune comme étant des jumeaux, les deux premiers signes, à savoir le soleil obscurci et les étoiles tombant du ciel, sont des choses que nous pouvons vérifier dans l'histoire, à savoir nous avons ce fameux jour sombre du 19 mai 1780 qui est amplement documenté et qui est donc placé, selon les paroles de Jésus, après l'affliction de ces jours-là, mais ce n'est pas à la fin de la période, mais juste avant la fin de cette période, c'est-à-dire pendant l'abrégement de cette période. Donc, c'est-à-dire que Jésus, il emploie un langage pour définir la fin de l'affliction, mais depuis déjà, comment cette fin déjà, cet abrégement qui avait commencé avec la réforme. Et ensuite, ce langage maintenant nous dirige un peu plus loin vers les étoiles tombant du ciel, ce qui n'est autre que une prophétie dont nous trouvons dans l'histoire l'accomplissement dans la nuit du 12 au 13 novembre 1833 avec cette fameuse pluie d'étoiles filantes. Une pluie d'étoiles filantes telle que le monde n'en a jamais vu et telle que les témoins oculaires eux-mêmes n'en avaient jamais vu, à tel point qu'ils étaient convaincus que c'était la fin du monde. Et ces signes avant-gardeurs, je crois, précurseurs, étaient là pour annoncer le retour de Jésus, mais annonçaient tout particulièrement une période, une nouvelle période dans l'histoire. Une nouvelle période. Et cela était en harmonie avec les paroles d'Actes chapitre 2, versets 16 à 21, mais ça, je n'y reviens pas, avec le rafraîchissement de la part du Seigneur et le rétablissement de toutes choses. Et donc, nous pouvons nous attendre, juste avant ce retour de Jésus au verset 30, à la réapparition, n'est-ce pas? Du don prophétique. Et comment cela nous est également exprimé dans la prophétie, dans les paroles de Malachie, chapitre 4, versets 1 et 5, j'y vais brièvement. Car voici le jour vient, ardent comme un four, tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine, ni rameau. Verset 5. Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Est-ce que nous avons une déclaration dans la prophétie d'un envoi plus prononcé du don prophétique dans l'Église avant le retour de Jésus? Vous le voyez ici. Dieu annonce et promet qu'il enverrait Élie le prophète avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Et donc, nous voulons faire un retour sur image ou un arrêt sur image ici, avant de poursuivre et de conclure. À savoir, nous avons vu, frères et sœurs, jusqu'ici, tout particulièrement dans Apocalypse chapitre 12, j'y reviens. Nous avons vu que la femme s'enfuit dans un désert pendant 1260 jours, prophétiques, à savoir 1260 ans, à l'abri des persécutions de la papauté. Au verset 15 et 16, nous avons vu la réforme protestante secourant la femme, l'Église, et ayant vraiment cerné cela et assis cette compréhension. Nous parvenons maintenant jusqu'au verset 17. Et le verset 17 nous présente la femme dans une différente période. Alors, je vous épargne les détails, mais si nous examinons à quoi ce verset fait allusion, nous comprenons qu'il s'applique à la femme, à la fois durant la période de Philadelphie, mais surtout durant la période de Laodicée, qui précède le retour de Jésus. Hein, la période de Laodicée précède le retour de Jésus. Comment savons-nous? Parce que Jésus parle du vainqueur, n'est-ce pas? Et tout simplement parce qu'il n'y a rien après. Et donc, c'est le temps du jugement durant lequel le peuple de la maison de Dieu est jugé, n'est-ce pas? La maison de Dieu est jugée afin de savoir lesquels auront leur non gardé dans le livre de vie. Hein? Jésus se tient à la porte, il frappe, afin que ceux qui lui ouvrent la porte puissent souper avec lui, lui avec eux, et qu'ils puissent ensuite obtenir la victoire par la grâce de Dieu et à travers la foi de Jésus, ce qui nous est déclaré dans le troisième ange. Et donc, nous voyons ici, dans Apocalypse chapitre 12, comment est-ce que la femme nous est ici décrite? Ou du moins les restes de la postérité de la femme, eh bien, elle nous est décrite ainsi. Je vais le lire, le verset en entier. Le dragon s'irrita contre la femme. Donc rappelez-vous, avant, le dragon cherchait à engloutir la femme Ensuite, la femme fut secourue pendant la réforme protestante. Ensuite, vous avez l'église de Sardes qui est inclus dans, vous avez l'église de Thyatire, l'église de Sardes qui est inclus dans cela, inclus dans cela. Ensuite, ce verset 17 englobe la Philadelphie parce que ceux qui ont fait partie de Philadelphie et qui ont été fidèles feront partie. Pour ceux qui ont accepté le message du troisième ange, feront partie de Laodicée et feront partie des 144 000. Et donc, nous lisons, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Nous voyons donc ici un retour total au point de référence d'Ésaïe chapitre 8 verset 20, à savoir la loi et le témoignage. Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Les conditions d'ailleurs selon lesquelles un peuple peut être illuminé par Dieu, hein, à la loi et au témoignage, s'il ne parle point ainsi. Point d'horreur pour eux, point d'horreur pour ce peuple, pour lui. Mais s'il parle ainsi, on voit le langage inverse, c'est que sur eux, Dieu fera luire sa lumière. Et c'est parce que Dieu fait luire sur eux sa lumière que le diable leur fait la guerre. Et nous retrouvons cette caractéristique profondément distinctive de la véritable Église de Dieu sur la terre dans le passage suivant qui était notre lecture biblique de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 jusqu'au verset 8. Je vais doucement mais sûrement nous mener à la conclusion. 1 Corinthiens 4, pardon, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. En option ou pas. Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Fidèle pourquoi? Fidèle pour nous affermir. Mais comment et selon quoi? Selon, notez bien verset 6, que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Et donc vous notez ici, nous notons ensemble, frères et sœurs, que le témoignage de Christ confirmé en nous marque la présence de tous les autres dons dans l'Église et ainsi complète cette Église et la prépare pour la manifestation et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? Parce que à travers ce témoignage de Christ, nous apprenons que le peuple, nous sommes enrichis en lui, Christ, de toute manière, en toute parole et en toute connaissance. Donc, à travers le témoignage de Christ, Dieu opère une sanctification qui prépare son peuple pour être présenté devant Dieu à son retour, je cite verset 8, irrépréhensible au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez un peu? Donc, à cela. Et donc c'est comme, j'ai marqué, comme la touche finale de Dieu sur son peuple. Une touche finale afin que nous soyons affermis jusqu'à la fin pour que nous soyons irrépréhensibles au retour de Jésus. Et bien entendu, ce témoignage de Christ n'est autre que conformément aux paroles de Apocalypse chapitre 19, verset 10, l'esprit de prophétie. Je reprends les paroles de l'ange. Garde-toi de le faire, c'est-à-dire garde-toi de m'adorer, disait l'ange à Jean. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Voilà, frères et sœurs, j'avais d'autres choses à lire, mais ce n'est pas grave, parce que je vais les lire la prochaine fois. Et Dieu aidant, par la grâce de Dieu, j'aimerais, sabbat prochain, faire et que nous ayons un message sur le don prophétique en la personne d'Ellen G. White. Et comme ça, nous allons pouvoir clore cette méditation et cette petite série avec une profonde assurance dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre conscience, que ces écrits sont véritablement la manifestation de l'Élie pour ces derniers jours et du don prophétique et du témoignage de Christ par lequel nous serons affermis et préparés, pleinement préparés et prêts pour le retour de Jésus. Puisse le Seigneur nous encourager, nous réjouir, nous fortifier, nous affermir, nous établir dans cette compréhension. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse abondamment dans cette direction et nous tous ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.